à la French Connection épisode 68. Cette semaine, je suis avec Patrick. Et hello tout le monde. Hello Patrick. Et nous allons principalement aborder le Hackfest qui est à nos portes, dans lequel Patrick va nous entretenir un peu de tout ce qui va se passer pendant cet événement-là. Et avant de passer dans le cœur, on va passer par les chemins plugs. Justement, le 2-3 novembre et les jours précédents, le Hackfest avec toutes les CTF, avec tous les éléments de ça, dans lequel on va aborder un peu plus loin, donc je ne m'étendrai pas dessus. 5 yes. décembre.
Sold out!
Sold out! Puis au moment où vous allez écouter ça, peut-être qu'il va y avoir des billets qui vont ouvrir, fait que soyez bien à l'affût, parce que si vous n'avez pas encore, il y a peut-être une petite chance que vous ayez encore des billets.
Mm-hmm.
Le 5 décembre, Misaka présente la sécurité des systèmes d'information dès leur conception, un peu pour parler du privacy puis du security by design. 22-23 janvier, le FIC à Lille, à laquelle je vais aller manger de la poutine avec Damien. Pour ma part, c'est maintenant mes billets sont confirmés, fait que c'est sûr que je m'envole vers là-bas. Et oui. Pendant la semaine dernière, nos limites sécu nous ont communiqué avec nous pour faire un duo podcast. Fait qu'on va faire un live avec eux là-bas.
C'est quoi, très cool, agréable. Ça. Vraiment content d'avoir que tu aies eu cette opportunité-là. Hein.
Ben, très,
avec
très
les vacances.
Yeah. Et finalement, le 8 avril, Québec Numérique présente le Sécur, qui est un événement qui sert à fédérer toute la communauté de sécurité au Québec. Et alors, maintenant, commençons avec le Hackfest.
Yes, donc ce que j'aimerais faire aujourd'hui, en fait, c'est un petit retour puis basé sur une des conférences qu'on va faire justement, toi, Martin, moi et peut-être Dave au Hackfest, qui s'appelle l'histoire de l'arrière-scène du Hackfest et de ses 10 ans. Fait que on va prendre quelques minutes pour faire un petit retour sur les dernières 10-20 années du Hackfest. Pas du Hackfest, les 10 dernières années du Hackfest, puis les 10 avant, peut-être un petit peu plus.
Ouais, on va parler de un peu de choses avant, là, quand j'avais vu. Ouais. On va parler de toutes nos rencontres, on va parler de toutes les choses qui ont donné, finalement, initié la naissance du Hackfest.
Exact, pourquoi on est rendu là aujourd'hui. Puis ensuite, on va parler de qu'est-ce qui va se passer au Hackfest, les activités hands-on, les conférences et autres. Fait qu'on va faire un petit tour. L'intérêt de ça, ben c'est justement assez sold out, puis je sais que c'est pas tout le monde qui peut être présent non plus, fait que vous allez pouvoir avoir un petit aperçu de ce que vous manquez. Mais ce qui va être la fun après, c'est qu'évidemment, Nick fait l'enregistrement des vidéos du Hackfest, donc ça va être réalisé sur notre YouTube d'ici la fin de l'année, il va en avoir quelques-uns qui vont sortir, et évidemment, tout ce qui est PDF et autres risquent de sortir un petit peu après la conférence. Là, les conférenciers mettent souvent ça en ligne. Donc, si on fait une petite histoire, le Hackfest, cette année, c'est la 10e. La première était en 2009. Donc, un petit peu moins de 10 ans, mais le 10e événement. Mais pourquoi le Hackfest est né, en fait? On remonte quand même à loin. Si on parle de la communauté de hacking au Québec... ça date des années 80 avec des groupes un peu spéciaux comme NPC et autres qu'on retrouvait sur les babillards électroniques, juste avant Internet. Après ça, on a eu la scène toute sur IRC. Donc, on avait beaucoup de monde, en fait, du Hackfest proviennent de ce monde-là qui aujourd'hui est remplacé par Slack avec des graphiques puis des GIFs. Mais c'était la même chose dans le temps, right? Fait que dans ce temps-là, le concept était beaucoup de faire des magazines en ligne, en texte, en version .txt. Il n'y avait pas vraiment de conférences. On parle de fin années 80, début années 90. Puis, il s'est créé peut-être une dizaine de groupes de hacking au Québec. Il y en avait peut-être une vingtaine en Europe. Il y avait justement la naissance même de Zataz, de Damien, provient un peu de ça, qui était un regroupement d'un site web qui répertoriait tous les magazines et tout. Et au Québec, il y avait des groupes un peu partout. Il y a eu beaucoup, beaucoup de drama dans ce temps-là, puis on va en parler encore beaucoup.
Mais il y en a encore du drama.
Ah,
c'est le propre de la communauté.
Exact, c'est comme l'essence même. Puis ce qui était drôle dans le temps, c'est qu'évidemment, là, c'était plus underground, on était au secondaire, voire certains au primaire. Fait que c'était plus des histoires de jeunes. Aujourd'hui, c'est du drama, mais tout le monde travaille pour des emplois, pour des familles. Fait que c'est juste drôle la différence, mais c'est à peu près le même monde, puis le même environnement, juste plus officiel. Mais pour en venir au Hackfest, fin 90, 98, 99, il y avait beaucoup de regroupements. Québec 2600, qui était à Québec. Il y avait à Montréal, Montréal 2600. Il y avait des rencontres non officielles qui se faisaient au 2600 Laurier, qui était le Place Laurier dans le temps. Aujourd'hui, c'est Laurier. Et tout le monde se regroupait là une fois par mois pour parler hacking, sécurité, whatever.
Et, freaking aussi, freaking à ce moment-là.
Dans le temps, oui, évidemment. La plupart, même moi, en fait, j'ai commencé par là, tout ce qui est hacking de téléphone, de système téléphonique plutôt, pas du téléphone en tant que tel. Et ça, il y avait beaucoup de rencontres à Québec qui sont éventuellement mergées en des rencontres un peu plus officielles parce que tout le monde avait des emplois. Fait qu'on s'est retrouvés à la cage au sport. Ça, c'est un des éléments qu'on va parler justement dans la conférence. Ensuite, cette cage-là, on s'est retrouvés, quoi? Peut-être une dizaine par mois facile à Québec?
Ben, on avait un 3-4 steady, puis des fois, ça peut monter jusqu'à 10. Des fois, même jusqu'à 20, on a eu des épisodes assez importants, mais on ne dévoilera pas tout dans le podcast. On va en parler au Hackfest, mais effectivement, puis tout ça. Puis tout le fait de l'intéressant, c'est que ces soirées-là, ces 5 à 7 là qu'on avait une fois par mois, ben, ils sont devenus le Hackerspace après.
Exact. Donc, qui aujourd'hui est le Québec Sec, là, on l'a renommé un petit peu plus corporate, mais les Hackerspace mensuels, les rencontres, les talks, les démos, etc., proviennent en fait de souper devant des ailes de poulet. Donc, très intéressant comme transformation. Puis l'Hackfest, en fait, nous, notre organisation que j'ai partie justement avec Nicolas, c'est pas vraiment nous qui l'a créé, c'est l'Université Laval qui avait en 2001, 2003, 2005 créé ce qu'on appelle l'Hackfest, qui avait été mort finalement, qui a arrêté parce que les personnes n'étaient plus à l'université. Et ce qu'on va parler justement dans l'histoire, là, le talk au Hackfest, c'est qui a eu l'idée, comment que c'est apparu, là, pourquoi, comment qu'on a fait ça? Je pense que le premier Hackfest, c'est quoi? 2 mois et demi à peu près la préparation?
2 mois et demi, 3 mois, on a fait ça. Fin de l'été, on a comme mis les choses en action, puis on a lancé, puis novembre, c'était livré.
Exact. Fait qu'on est parti de rien dans le milieu de l'été jusqu'à environ 150, 175 personnes au mois de novembre, ce qui était quand même cool.
C'était pas mal insane.
C'était insane, mais pas juste ça. C'est parce qu'on s'est ramassé dans un sous-sol d'hôtel quand même très miteux. Je sais pas si ça a l'air de quoi aujourd'hui, mais dans le temps, ça faisait un peu pitié. Avec des vieux tapis et tout. Il y a eu beaucoup d'histoires comiques et beaucoup de dramas qui revenaient de la scène IRC des années 90. Ça, je vais laisser les photos dans la présentation.
C'est là qu'on a découvert qui était le blogueur mystère, le bâton et la sécurité aussi.
Oui, exact. Beaucoup de choses intéressantes, intéressantes, plutôt drôles et comiques là, qui s'est passé là. Et par la suite, ben, c'est ça, là, l'Hackfest se grossit, à plus ou moins 30% de personnes à chaque année de plus, pour en arriver cette année un sold out à 1000 personnes. Ce qui est vraiment cool, là. Donc, c'est ça. Ça fait un peu le tour de l'histoire du Hackfest, d'où ce que ça vient. Puis, c'est sûr, l'Hackfest est très Québec, donc ça vient des rencontres du monde de Québec, l'Université Laval et autres. Puis, dans la conférence, on va mettre plus de screenshots, plus de photos, plus de trucs drôles. Et la section favorite à Nick.
Plus de drama.
Ah! Yes. Mais si on parle de l'événement en tant que tel, cette année, ce qui est vraiment intéressant, puis ce que j'ai voulu apporter un peu des États-Unis, là, évidemment du DerbyCon, du DevCon et WhateverCon aux États, c'est le concept de village. On avait commencé un petit peu l'année passée avec ça, avec le concours de social engineering. Puis cette année, bon, on l'a poussé à l'extrême. On a 3 salles, c'est une méga salle, dans le sous-sol de l'hôtel avec 5 villages, en fait. On va avoir un poste d'environ une dizaine de stations de soudure. Donc, si vous voulez apprendre à faire de la soudure sur des éléments électroniques, on va voir ça. On a, comme l'année passée, le RFID, donc un de nos bénévoles là, sur le comité de sélection des conférenciers, Trevor, a construit des portes, des mini-portes de genre 2 pieds de large par 2 pieds de haut, en métal, qui s'ouvrent avec des modules RFID et tout. Il y en avait quelques-uns l'année passée, mais là, il a upgradé son équipement, je pense, il l'a doublé ou triplé. Là. Fait qu'il a acheté tous les nouveaux Proxmart, la nouvelle version 4. Il va en avoir à vendre, même. Ça, c'est un peu une info que personne ne sait encore. Fait que c'est très cool. En même temps, il fait l'Internet des objets, l'IoT. Il fait un CTF de ça. Donc, il va avoir des objets IoT, des modules, genre des cartes réseau, des caméras, etc., que la personne qui trouve le plus gros bug dessus va remporter un prix. Fait que c'est comme un CTF sur les 2 jours du Hackfest. On a du hardware hacking. C'est un peu une introduction à 101, faire du Arduino, connecter des LEDs, des trucs de base. C'est un peu ce que Dimitri faisait dans les dernières années, mais par quelqu'un d'autre. Dimitri est parti en voyage, donc il ne fait pas être avec nous. Puis ça a donné que quelqu'un a eu l'idée de faire ce qu'il faisait à peu près. Fait que c'est cool, on a encore l'hardware hacking. On a rajouté, ça c'est plus ou moins un village, mais le samedi du Hackfest avec le Défi Évasion, qui est une compagnie qui fait des escape rooms. Et on a un village de virtual reality, donc du VR, dans une de nos salles. Ça c'est une autre salle, c'est pas la même des villages. Fait que le samedi, presque toute la journée, il va y avoir du VR. Je pense qu'il y a 4 stations à peu près. Donc, t'es debout dans une salle, puis c'est très drôle de te voir presque tomber. J'ai hâte de voir s'il y a du monde qui vont faire du faceplant. durant tout le Hackfest, aussi petite primeur, Défi Évasion, la roulotte, l'escape room, va être dans le stationnement du Hackfest. Fait que tout le monde va pouvoir faire du escape room gratuitement. Ce qui est vraiment cool. Je pense que c'est plus ou moins une demi-heure chaque. Comment?
Une roulotte?
Oui, ils ont une roulotte mobile, un genre de 45 pieds, qu'ils ont magiquement transformé dans un escape room, que tu as une porte, t'embarques dedans, puis vu que c'est la semaine de l'Halloween, mais évidemment, ça va être un thème horreur, je crois, ou quelque chose comme ça.
OK, wow, quand même.
C'est vraiment cool. C'est sûr, c'est place disponible limitée, mais ils vont prendre les inscriptions à la porte du Hackfest, puis... Ça risque d'être le fun. C'est là les 2 journées. Fait que, il doit y avoir pas mal de monde qui puisse faire ça. Autre nouveauté, le fun cette année, notre partenaire RSA va mettre en place un NOC, un Network Operation Center, basé un peu sur la sécurité. Il devrait avoir 4-5 écrans de 50-60 pouces pour montrer justement tous les logs, tout ce qui se passe sur le réseau du Hackfest au complet. C'est la même gang et le même équipement que le Black Hat NOC. Fait que ce qu'ils font au Black Hat aux États-Unis à Vegas, c'est la même chose, mais en version miniature, évidemment. Là, au Black Hat, je pense que leur salle doit faire, je ne sais pas, 100 pieds. Eux, c'est peut-être 2-3 tables. Là. Fait que c'est pas la même chose. Mais ça risque d'être super intéressant. Là. Vous pouvez aller voir ça, parler au monde. Puis c'est dans la salle de CTF pendant les 2 journées. Très cool, très cool. Fait que ça fait le tour des villages. C'est comme un peu le concept, une nouveauté. Puis évidemment, le Social Engineering Contest revient encore une fois cette année avec une dizaine de participants. Donc, bien hâte de voir ce que ça va donner.
Est-ce que ça, le Social Engineering, est-ce que les noms des entreprises, c'est ça parlait difficile d'avance ou c'est vraiment une surprise quand on arrive sur place?
C'est une surprise live, surtout pour pas que ces entreprises-là fassent de la publicité massive à tous les employés pour dire qu'on va le faire, évidemment. Il y avait eu beaucoup de personne qui a eu peur l'année passée, des entreprises qui ont eu la chienne carrément. On avait reçu beaucoup d'entreprises qui nous écrivaient pour dire « Vous pouvez pas faire ça » ou « On va avertir tous nos employés ». Puis il y en a qui l'ont fait. Là, ils ont écrit à tous leurs employés, etc. Mais tout ça pour dire que c'est 100% légal. Là. C'est un appel téléphonique à quelqu'un puis le quelqu'un te dit des choses qui sont légales. C'est comme, pareillement, vous écoutez un podcast, puis c'est pas mal la même chose. Hein. On se parle entre nous autres.
Ah, tout à fait. Là, mais c'est ça. Mais c'est sûr que là, les gens ont beaucoup peur de ça. Mais oui, est-ce qu'il y a des...
Mais beaucoup, beaucoup peur au Québec. Je suis surpris du nombre de personnes qui en font dans leur job, puis qui ont une chienne totale. C'est des pentesters, ils sont bons, ils sont capables de faire ça. Puis au Hackfest, ils veulent pas s'essayer. Ils ont une peur incroyable du résultat de ça.
Ouais, mais le monde, on parle de ce que... Ouais, c'est un peu Donc, d'aller sur la place publique au Québec est une difficulté certaine, parce qu'il y a beaucoup de gens qui en parlent. Je comprends, puis je suis habitué aussi par une partie de cette peur-là. Mm-hmm. Mais l'objectif, parce qu'il y a un objectif d'éducation pour tout le monde avec, avec ce
exact. Concours-là. Le concours, c'est la sensibilisation au social engineering qui est une des attaques les plus sévères et les plus utilisées pour entrer dans les entreprises.
Mais être un humain, on fait ça constamment. Quand on négocie avec les gens, ça fait partie d'être un humain. Donc, c'est savoir comment on articule ça dans un contexte de sécurité. Là.
Exact. C'est de voir la facilité ou certaines fois la difficulté, parce qu'il y a des participants qui n'ont pas du tout réussi l'année passée. Là. Mais la facilité que souvent le contexte ou la manière que l'humain approche des communications va donner toute l'info que l'autre veut. Là. Que va lui demander.
Oui, puis ça, il faut comprendre. Surtout qu'on est dans une époque de fake news, des choses comme ça, il faut qu'on soit conscient de ce qui se passe pour être capable de se défendre et correctement face à ce genre de choses-là. C'est maintenant, c'est le nerf de la guerre, on n'a plus le choix. Là, on ne peut pas se cacher la tête en dessous dans le sable.
Exact. Puis, tu sais, il faut être réveillé puis alerte. Puis le concours veut montrer ça. On va réaliser un rapport après pour montrer quelle technique a été utilisée, combien d'entreprises se sont fait avoir. On nomme jamais les entreprises, là, évidemment.
Mais est-ce que les entreprises ciblées reçoivent un rapport qui leur est spécifique ou les autres sont juste...
On essaye, c'est juste que certains, il n'y a pas de réponse au bout de la ligne. Là. Fait qu'ils nous disent rien ou il n'y a pas de contact qui prennent les rapports.
Ouais, ça arrive, là, mais dans la mesure je vais voir si le douquet au moins minimalement, et vous aidez les entreprises à s'éduquer. S'ils ne veulent pas après ça, là, on ne peut pas...
C'est notre limite, mais oui, évidemment, là, on envoie ça au contact possible de sécurité qu'on a à ces entreprises-là. On va faire les communiqués de presse pour résumer le tout, voir la facilité, le nombre de flags qui a été trouvé. Puis, tu sais, les flags, les questions qui sont demandées, comme je disais, légal, c'est des choses comme la version du firewall, des adresses, des numéros de téléphone, des choses comme ça. Il n'y a pas de carte de crédit, il n'y a pas de mot de passe. Il n'y a pas rien qui pourrait être illégal.
Il n'y a pas d'informations
confidentielles, exact. Il n'y a pas d'informations personnelles et confidentielles habituellement. Puis les personnes qui roulent l'événement, si quelqu'un s'en va dans le mauvais sens, il coupe la ligne, c'est dehors. C'est super strict. En même temps, dans les règles qu'on a mis en place, tu n'as pas le droit de te faire passer pour quelqu'un de la police ou quelqu'un du gouvernement, quelqu'un avec beaucoup d'influence. Évidemment, on n'a pas le droit de faire ça. Mais tu peux te faire passer pour un support...
Si tu es un riche prince nigérien, ça marche-tu?
Ben, c'est d'abord combien de millions tu offres. Et certains tombent pour ça, ça a l'air. Mais je ne l'ai pas vu encore, celle-là. Mais c'est ça, bien hâte de voir ça. Il va y avoir quelqu'un participant en anglais, quelqu'un en français. Puis ce qui est le fun dans la version du Social Engineering au Hackfest, c'est que la première journée, c'est une qualification, puis la deuxième, c'est une finale. Puis ils reçoivent le nom de la compagnie une demi-heure d'avance. Puis ils ont une demi-heure pour faire du recon, du open source intelligence, avec le crowd dans la foule. C'est un méga challenge, mais c'est super intéressant. Puis tout le monde peut apprendre à trouver des informations utiles et pertinentes sur Internet.
Ouais, c'est essentiel. Surtout, ça va sensibiliser les gens, ceux qui sont moins familiers avec ça, de moins diffuser d'informations sur Facebook, sur Twitter ou tous les médias sociaux aussi.
Ouais, exact. La trace numérique qu'on laisse sur le web. Puis, justement, parlant de trace numérique, bien, une des méga nouveautés cette année, puis qui fait quand même parler, c'est le Missing Person CTF. Donc, le Hackfest va offrir en collaboration avec TraceLab. C'est une organisation à Vancouver, au Canada, un CTF de Open Source Intelligence, DocInt, pour retrouver des personnes disparues officiellement, là, qui sont listées sur les... je sais pas comment on appelle ça, les billboards ou whatever de la police.
C'est une bonne action dans ce cas-ci. Là.
Exact. Il n'y a pas de hacking impliqué, c'est vraiment de l'Open Source Intelligence, faire des recherches Google, utiliser des outils pour trouver des posts Facebook, Twitter, etc., corrélés de l'information. Donc, c'est vraiment de la recherche web, mais un peu plus avancée, basée sur ce que cette personne-là pourrait être localisée.
Ah, c'est nice. Ça, c'est de joindre deux choses très, très bien, autant d'un côté, tout le côté de redonner à la communauté puis d'aider des gens, puis tout en éduquant les gens comment tout ça fonctionne.
Oui, exact. Puis le tout n'est pas fait juste pour avoir des points. Toutes les informations qui sont trouvées sont validées par des bénévoles, justement, de l'organisation du CTF. Et les informations confirmées qui font du sens sont envoyées aux autorités là, reliées au dossier analysé sur Internet. Là. Donc, les informations vont être transmises à whatever l'organisation policière. Donc, c'est super intéressant. Eux, Trace Lab, dans les deux derniers qu'ils ont fait, ils en ont fait un à Toronto puis un au DEFCON, ils ont réussi à closer des cas de disparition dans toutes les fois. Là. Donc,
wow, c'est vraiment chouette, ça. C'est vraiment un bon retour à la communauté.
Oui, ouais, vraiment. Puis, tu sais, ça montre aussi que les skills, le talent, puis ce que le monde font en hacking, en sécurité, c'est pas juste des trucs qui ont l'air farfelus ou qui ont l'air illégal, ça sert à des bonnes choses. Et c'est ça. J'ai hâte de voir le résultat, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. C'est sûr que c'est quand même nouveau, mais comme je dis, ils en ont trouvé partout, puis ça risque d'être encore le cas à Québec. Là. Puis dans les exemples qu'ils donnent sur leur site, souvent c'est aussi banal que une personne est disparue dans la ville A. Puis dans la ville B, le corps de police n'a pas parlé au corps de police A. Puis la deuxième ville a trouvé un corps à quelque part dans une forêt. Puis personne n'a fait le lien entre les deux parce que des fois, communication, bureaucratie, etc., ça bug. Donc, tu as les deux photos sur deux sites de police différents, puis tu concordes que c'est la même personne. Je pense qu'à Toronto, il y en a eu plusieurs comme ça.
Ouais, donc de retrouver un corps mort, c'est un peu moins intéressant comme conclusion, mais n'empêche, au moins, ça vient résoudre un...
Ça donne un closure à la famille, évidemment. C'est pas la solution que tu veux, mais je veux dire, des fois, ça arrive, les personnes disparues, c'est ça qui est arrivé. Il y a eu beaucoup de cas de fugue, évidemment, là, que les personnes ont retrouvé des posts Facebook ou d'une autre identité similaire, pas le même nom, mais presque, puis les photos sont pareilles. La personne dit « Hey, je suis à telle place avec tel ami. » Finalement, ils ne sont pas si loin, ils sont juste en fugue. Donc, c'est le genre de choses qui peuvent être trouvées. On espère aussi peut-être avoir la collaboration des forces policières un peu plus que présentement. Il n'y a rien d'officiel. Ça se peut qu'il y ait des officialisations, mais on verra ce que ça donne.
C'est bon. Je vois que vous ramenez le Brain Fuck.
Yes. Le concours de Vin. Qui est un peu basé sur le badge contest, badge CTF au DEFCON, qui est un énigme, finalement, très compliqué, qui fait plus ou moins de sens parfois. Du moins, quand je check les solutions, c'est vraiment hardcore. C'est des énigmes qui sont partout dans l'événement, que ce soit sur la lanière, les badges, des feuilles dans l'événement, sur le site web et autres. Il y a des indices partout dans l'événement. Et les deux, trois dernières années, je pense qu'ils ont tous été résolus à peu près une heure avant la fin de l'événement, ce qui est quand même cool.
Effectivement, c'est un peu l'esprit du Hackfest aussi, ça.
Mm-hmm, exact. Puis, tu sais, dans les CTF, on en a, on en a six cette année. Donc, c'est pas, il y a le Hackfest CTF, le CTF officiel qui a lieu, mais il y a le Missing CTF, on a le Brain Fuck. On a le party du Hackfest qui a été sponsorisé, c'est le Duproprio Party cette année, qui va contenir le CTF Beginner et Avancé de Security Innovation. Le Avancé risque d'être vraiment cool, c'est basé un peu sur les concepts de smart contract et autres, donc ça devrait être intéressant. Et le retour encore de l'OASP qui fait une qualification et une finale commentée, très drôle, sur écran des personnes qui font la finale du CTF. Toutes leurs erreurs, leurs bons coups sont faits devant l'écran. C'est généralement très apprécié là, vers 10h le samedi soir.
Très comique, oui, effectivement.
Oui, exact. Il y a plein de belles photos et de vidéos de ça sur YouTube, puis on les aime bien. Finalement, dernier petit point, bien, c'est les formations. Évidemment, sont fermées, il n'y a plus de place. Mais dans les formations intéressantes, cette année, on a eu un employé d'HackerOne, en fait deux, je crois, qui offre un web hacking basé sur le bug bounty, parce qu'évidemment, ils sont dans la communauté HackerOne. Donc, c'est tout du web hacking, mais basé sur les bugs les plus populaires dans les bug bounty. Après ça, on a le retour de CSE, qui offre l'assembleur pour le reverse engineer. et le cours qu'on a créé, la sécurité 101-102, avec notre bénévole Claude. Et encore une fois, après, je pense qu'il est sold out, le cours de sécurité 101-102. J'avais un peu la chienne qu'après quoi, je pense que ça fait 6 ans qu'on fait ça, plus ou moins. Je me suis dit peut-être que l'événement va... Pas l'événement, mais les inscriptions à cette formation-là n'auront plus lieu d'être. Mais non, j'ai tout à fait tort. On a toujours des personnes intéressées à commencer en sécurité plus technique. Puis ça fonctionne. Donc,
ben, ça, c'est rassurant en soi pour qu'une relève se forme parce que tu le vois comme moi, la relève est quasi inexistante. On est juste, c'est ça qui est l'ironie, on est juste les vieux de notre gang. Puis après ça, c'est comme un vide sidéral puis épurier.
Ouais, exact. Et comme il y a 2-3 petites vagues après nous autres. T'as la gang de IRC qui était bizarre dans le temps. Après ça, t'as une mini quelques groupes de personnes de cégep université. T'as eu, je pense, à quelque part des groupes de hacking sur Facebook, mais ça n'a pas duré longtemps. Je veux dire, ils se sont fait spotter, je pense. Ça sur Facebook,
ouais. C'était cette là. Ouais, ça se peut, ou ils sont peut-être, c'est ça, sont peut-être enfermés maintenant dans l'arrière des barreaux, mais dire de notre gang dans laquelle on était, on a fait partie un peu de la gang IRC, là, par ailleurs.
Oui, oui, tout à fait.
Mais de tout cela, avec les espèces de rencontres informelles de 2600, tout ça. Et après ça, il n'y a plus tant que ça, il n'y a plus de groupe organisé. C'est sûr
non, le concept communauté sécurité au Québec, je dirais à part la Hackfest, qu'on crée des trucs à l'année longue, puis à Montréal, il y a quelques petites conférences mensuelles. C'est très petit. Là, le Slack du Hackfest, on l'a créé justement pour regrouper le monde à tous les jours pour se parler. On rejoint plus ou moins 500 personnes sur le Slack, peut-être une centaine qui sont actifs, temps plein. Mais à part ça, c'est très, très dur. Puis le concept d'Internet, justement, avec les réseaux sociaux et tout, ça s'est très dispersé, mettons. Oui, il y a beaucoup de monde en sécurité hacking, mais pas ta communauté. Versus ce qui était dans le temps, tout le monde se voyait tous les mois, il y avait toujours des activités, il y a toujours des trucs.
Ouais, le mot a changé. Il y avait, du souvenir, parce que tu sais, je vais développer un punch de la présentation, c'est que quand j'organisais les rencontres mensuelles à Cage au Sport, il me semble qu'il y avait comme une forme de passion, puis on trippait sur ce qu'on faisait, on découvrait, puis on partageait nos informations.
Ouais, exact. Puis même
l'Hackfest est né de cette idée de partage, puis de trip, tout ça. Mais au-delà du Hackfest, il n'y a plus de mouvement grassroots, là, de monde qui émerge, puis là, qui s'organise, puis qui tripe, qui ont du plaisir. Puis
exact, parce que ce que j'expliquais au début, les années 90, c'était beaucoup orienté vers des magazines électroniques. Le but était que chacun apprenait de son côté et partageait l'information. Après ça, ben, on a eu nos rencontres qui étaient le même concept. On tripait à découvrir des choses, à les partager. Je veux dire, on a notre projet qu'il faut finir, que ça fait 4 ans qu'on ne fait pas, notre World Driving, on faisait ça dans les années 90.
Ouais, il faut le relancer, ça. On va arrêter d'avoir genre.
On va arrêter de le dire, hein?
Je vais arrêter de pousser ça en avant, on va pas l'exécuter, mais on fera ça. Ouais, c'est vrai, la dernière fois, le fait, on était tous les deux pas mal beaucoup plus jeunes et.
Exact. Puis ça, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais tu sais, fin 90, on faisait ça, on se promenait en voiture puis on scannait des réseaux sans fil. Ça existe très peu aujourd'hui. Il n'y a pas de groupe qui s'assoient ensemble à 15 et qui trouvent des exploits ou qui font de la recherche. Vraiment plus rare. Le concept de faire de la recherche puis l'exposer, à part de trouver des bugs web à la HackerOne, des bug bounty, c'est très peu ces jours-ci. Il y a très peu de monde qui vont faire de la recherche puis des white papers ou des magazines ou autres. Tu as FRAC, des magazines électroniques aux États-Unis qui font un mini-retour avec des articles techniques, de la Proof of Concept or Die, or Get the Fuck Off, whatever, un de ceux-là, qui sortent là, avec Travis Good quelque chose aux États-Unis, qui sortent des articles ultra poussés, qui sont la gang de FRAC de là, peut-être 15 ans. Mais à part ça, ça n'existe pas, là.
Ouais, mais c'est mort avec le web. Moi, la perception que j'ai eue, l'arrivée du web, toute cette communauté-là s'est dissipée. C'est toute la communauté électro, hacking, assembleur, ouais. C, dans laquelle je faisais partie un peu. J'étais plus du côté assembleur C, j'étais moins électro. Mais on s'amusait à faire du reverse engineering de façon très basique sur les choses. Ces communautés-là sont dissipées maintenant. Puis, si je parle d'assembleur avec quelqu'un, 95% des gens ne comprennent même pas de quoi je parle.
Non, c'est clair. Puis là, si tu jobs dans l'électronique, t'en perds encore plus. Mais t'as raison, tu sais, l'arrivée du feu Web 2.0, là. L'interface Ajax.
Ouais, si Ajax, c'est vous, Ajax.
C'était terrible, ça. Un call asynchronous. Mais ça a fait que tout ça a apporté les réseaux sociaux et a comme divisé la communauté. Les réseaux sociaux sont supposés de regrouper, mais au final, c'est pas vraiment ça que ça a donné, même côté société. Là. On n'embarquera pas dans une discussion philosophique, mais ça n'a pas fait le résultat escompté, mettons.
On est rendu beaucoup dans l'individualité. Là. On est beaucoup rendu dans le monde où les personnes veulent se faire reconnaître comme individus et contribuer à la communauté. Fait que ça s'est beaucoup perdu. Puis pour l'avoir vécu une partie du temps que j'étais avec le Hackfest, l'appel à la participation là, ou à la contribution, là, c'est...
Ouais, je vais sûrement mettre une slide là-dessus au Hackfest, mais ça, c'est un des points. Puis on l'a essayé cette année, on a fait un appel aux bénévoles pour avoir justement des bénévoles de plus pour faire des tâches que l'équipe core n'a pas le temps. Puis ça a été compliqué, là. Je veux dire, sur 3 mois de publicité puis de call ouvert sur le site web, on n'est pas à 10 personnes, là. Que c'est extrêmement compliqué, mais le même appel aux bénévoles aux États-Unis ou au Canada anglais, si t'en as 30, sûrement dans moins d'un mois, voire quelques heures, c'est vraiment quelque chose de différent. La culture est différente, évidemment, mais c'est pas facile, exact. Fait que le côté communauté rend ça...
Puis pour m'être impliqué dans beaucoup d'événements autres après le Hackfest, on finit toujours par croiser les mêmes personnes. Anyway, c'est toujours à peu près les 30 ou 40 personnes dans la communauté à Québec et à Montréal qui drivent le show sur la plupart des événements. On parle en sécurité et tout ce qui gravite autour de web, TI, toutes ces affaires-là.
Ouais, puis si tu remarques, la plupart du monde qui gère ces événements-là viennent de la génération plus pré-web. Qui ont touché à tout ce qui est plus technique avant justement les réseaux sociaux. Ça va peut-être changer éventuellement, mais c'est quand même intéressant de voir comment que ça a évolué.
On aura en masse le temps d'en parler pendant le Hackfest.
Yes.
Ça va donner l'espace à encore du drama et des faux bons de certains contributeurs aussi.
Oui, tout à fait. Puis on va pouvoir en discuter plus. Puis c'est ce qui va être le fun dans la conférence, c'est qu'il va y avoir beaucoup de photos et screenshots. Donc, ça risque d'être plus interactif que juste nous écouter présentement à la voix. Mais ça risque d'être le fun. J'ai hâte de voir le monde dans la foule. Puis j'ai même des personnes que ça fait plusieurs années que je n'ai pas vu que j'ai invité à cette présentation-là qui ont accepté finalement. Donc, hâte de voir le résultat de ça. Puis en même temps, il faut le dire, le podcast, le French Connection, on enregistre aussi au Hackfest le samedi soir avec Bière et Poutine. Yes.
Ouais, c'est un événement à ne pas manquer parce que pour ceux qui étaient là l'année passée, c'était franchement très intéressant. Puis on a eu des séquences tout à fait intéressantes, entre autres sur un retour sur le social engineering qu'on a fait à ce moment-là qui va être disponible incessamment parce que l'autre au revers de ça, étant donné qu'on enregistre live, il y a beaucoup plus de travaux de montage à faire et c'est beaucoup plus exigeant. Donc, tout ce qui se dit dans la salle n'est pas répété ensuite nécessairement sur les internets.
Censure tout ce que je dis.
Non, pas tout ce que tu dis. J'en suis principalement plus que ce que je dis moi que ce que les autres disent. J'ai peut-être un peu moins de retenue dans ces circonstances-là, mais c'est intéressant. Donc, si vous voulez voir un peu plus comment on interagit en vrai et comment le podcast s'enregistre, c'est tout à fait intéressant. Là. D'ailleurs, ça, l'année passée, c'était assez sharp en termes de contenu et en termes de folie qu'on a faite pendant les 2 heures qu'on a enregistré.
Là. C'est sûr, c'est à la sauce non officielle, très Hackfest, très drôle.
Drôle. On parle de Poutine beaucoup avec Damien.
Oui, Damien nous fait l'explication totale, je crois, l'année passée de comment ça Poutine goûte et la texture et tout. Ça risque d'arriver encore, je suis persuadé. Ouais.
Mais si on ne conserve pas ça pour les archives, fait que ça n'est pas rediffusé après. Fait que si vous voulez voir Damien qui décrit sa poutine en temps réel, c'est pour être au podcast le samedi soir.
Exact. Donc, ça fait le tour pour ça, en espérant voir la plupart d'entre vous qui nous écoutez au Hackfest.
J'espère que beaucoup de vous autres avez eu la chance d'avoir les billets.
D'avoir les billets, oui, exact. Puis en même temps, ben, si vous avez des questions, si vous voulez parler, si vous voulez commenter, si vous voulez faire n'importe quoi durant la Hackfest, c'est le bienvenu. Puis tous les jours, ben, vous pouvez toujours faire ça sur nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter.
Aussi, puis en fond, on vous invite à venir participer au podcast aussi, au sens où l'année passée, il y a des gens qui étaient venus contribuer puis avaient parlé des invités ad hoc qu'on avait eu puis qu'on a eu des échanges tout à fait intéressants qui en ont sorti. Donc, si vous voulez faire ça, vous êtes très bienvenus aussi. Là.
Exact. Donc, merci Nick pour ce podcast et on se revoit dans quelques jours.
Oui, on sait. Pour nous, pour les auditeurs, ça va être moins rapide, mais pour les auditeurs, au moment où vous nous écoutez, on va être déjà en train de besogner sur les différents éléments.
Yes.
Ça, on se voit au Hackfest.
Bye.